Bonjour, bienvenue dans votre émission bimensuelle Les Métiers de l'Ombre, qui met en lumière ces héros silencieux qui travaillent dans l'ombre, le mercredi, en semaine impaire, à partir de 13h, sur Radio G 101.5 FM. Et n'oubliez pas, chaque voix mérite d'être entendue. Mais alors, qui sont-ils ? Ce sont ces personnes qui exercent des métiers peu connus du grand public, mais dont l'activité est cruciale et indispensable à notre quotidien. Derrière chaque enseigne, entreprise ou association, se cachent de nombreux individus que l'on appelle les petites mains, sans qui la qualité ou l'expérience proposée ne serait pas la même. Alors prenons un instant pour imaginer notre quotidien sans ces métiers essentiels et rencontrons toutes les deux semaines un de ces mystérieux individus au micro de Radio G. Dans l'épisode précédent, vous avez pu découvrir depuis le Angers Geek Fest le métier de maître du jeu pour des parties de jeux de rôle, à travers les mots de notre invité et l'explication détaillée de comment se déroule une partie, qu'il propose d'animer depuis chez vous, grâce à son service de parties de jeux de rôle à domicile. Alors je vous invite à découvrir cet épisode en podcast sur le site de Radio G, radio-g.fr. Aujourd'hui, partons à la découverte de l'univers du graphisme avec notre invité qui réalise, conçoit, design, embellit l'image de marque, de produits, d'événements et bien plus encore. Je veux bien sûr parler du métier de designer graphique, graphiste ou encore directeur artistique. Et je vous propose de rencontrer Manon Nicolas. Bonjour Manon, comment vas-tu ?
Bonjour Fabien, ça va très bien et toi ?
Ça va super, merci beaucoup. Eh bien écoute, bienvenue dans l'émission Manon. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pendant une petite demi-heure pour découvrir ton métier, ton quotidien en tant que graphiste, designer graphiste ou même directrice artistique, mais aussi en tant que fondatrice et directrice de ton agence. Nous verrons donc ton parcours pour en arriver là, mais aussi quelle stratégie tu as adopté pour développer ton entreprise dans le monde de la communication visuelle avec tes divers clients comme Marvel, Histoire d'Or et Jeff de Bruges pour en citer quelques-uns. Puis, pour le plus grand plaisir de tous, je te demanderai au cours de notre interview des titres de morceaux que tu affectionnes tout particulièrement. Alors Manon, ça va ? On est parti ?
C'est parti, let's go !
Eh bien alors pour commencer, peux-tu te présenter et nous dire d'où tu viens ?
Ok, super. Alors moi c'est Manon Nicolas. J'ai 27 ans actuellement, bientôt 28. Effectivement, je viens en fait d'une petite commune qui s'appelle Ouzoir-sur-Loire, plus communément appelée la campagne. Voilà. Effectivement, c'est à côté d'Orléans pour les personnes qui ne connaissent pas. Mmh. Et puis après, je suis montée vers Tours pour pouvoir faire mes études. Et puis après, je suis arrivée jusqu'à Angers.
Jusqu'à Angers, voilà. D'accord. Mais tu es restée quand même plus ou moins proche de la Loire.
Voilà, exactement. J'aime bien. Il y a quelque chose qui m'attire par ici.
C'est vrai. Et donc, tu es avec nous aujourd'hui pour nous parler de ton métier actuel, qui est dans le domaine du graphisme.
Tout à fait.
Donc, qu'on peut assimiler au métier de designer, designeuse graphique.
Tout à fait.
Et aussi directrice artistique, car tu crées et tu prends l'intention toi-même suite à tes demandes de clients.
C'est ça, exactement.
Eh bien, pourrais-tu nous donner la définition de manière générale,
ouais,
de ton métier?
Ok, je pense que mon métier, c'est de mettre en fait un visuel, des formes sur des mots. C'est-à-dire que je vais avoir des clients qui vont me dire vraiment leur intention. Voilà, nous, on veut ci, on veut ça, on aimerait bien avoir quelque chose de joyeux, de déco, de coloré, de gai, etc. Et en fait, moi, avec ces mots-là, je vais devoir les retranscrire sous forme en fait de couleurs, sous forme typographique ou alors sous forme tout simplement graphique.
Et en soi, il faut faire preuve de beaucoup de créativité quand même.
Oui, alors je pense qu'il faut avoir de l'imagination. Mmh. Voilà, si on n'a pas d'imagination dans ce métier-là, je pense qu'on aura souvent le syndrome de la page blanche.
Ça va peut-être être un petit peu compliqué, oui,
voilà,
effectivement.
Voilà, tout à fait. Mais c'est vraiment un gros travail d'imagination parce qu'il faut qu'en fait les idées affusent. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les idées seront bonnes, ça, non. Mais par contre, ça veut dire qu'on va pouvoir tester plein de choses et c'est quand on teste plein de choses que le cerveau, en fait, il va s'associer avec deux autres idées et ça va donner un concept, en fait, qui va être super génial, quoi. Donc, je pense aussi que c'est un peu un muscle qu'on peut travailler, l'imagination, tu vois. Je pense pas que ce soit une fatalité, en fait, si on l'a pas. Et effectivement, je dessine depuis toute petite, vraiment depuis que je suis gamine.
C'est vrai?
Oui, tout à fait. Et je vais même te dire, c'est ma mère qui savait déjà à l'avance quel métier j'allais faire. Hein.
Eh ben, dis donc, tu me devances, parce que j'allais te poser justement cette question-là. D'où vient cet attrait pour ce design, pour le graphisme comme ça? Et j'allais te poser la question, est-ce que tu as pris des cours de dessin quand tu étais petite?
Eh ben non, j'aurais bien aimé pouvoir te montrer des dessins, vraiment pour te montrer à quel point ça, c'était catastrophique. Mais tu vois, quand j'étais petite, j'adorais dessiner le camping dans lequel j'allais chaque été.
Ah. Avant de partir en vacances? Exactement. Ou une fois que vous étiez partie?
Avant de partir.
Oui, donc du coup, ça sentait l'envie de partir en vacances.
Tout à fait, tout à fait.
Et ça vient de ta famille un petit peu, cet attrait pour le dessin, le visuel comme ça?
Mais en plus, ce qui est extrêmement bizarre, c'est que pas tellement. Tu vois, moi, j'ai des parents qui sont dans le milieu médical.
Ah oui?
Donc vraiment, voilà, on n'est plus sur le côté scientifique, alors que j'ai pas du tout la fibre scientifique, ni même mathématique. Donc vraiment, j'ai été un petit peu la première à me dire, moi, je pense que, voilà, je suis plus partie sur les couleurs, sur les jeux de typos, sur tout ça, plus que sur quelque chose, en fait, voilà, de purement scientifique, tu vois.
Et donc aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu fais ce métier?
Et maintenant, ça va faire 10 ans.
Ah oui?
Ouais.
Bon, ça va, ça te fait une bonne expérience quand même dans le domaine.
Ouais, complètement. Puis effectivement, j'ai vu plein de choses, j'ai appris énormément. Je veux dire, je suis passée par vraiment des études qui étaient hyper complètes. Donc, en fait, je connais ce milieu-là sous toutes ses formes et je pense que je vais encore en apprendre au fur et à mesure avec tous les nouveaux outils qui arrivent, comme l'intelligence artificielle, par exemple. Mmh. Tu vois.
Oui, savoir l'apprivoiser et s'en servir.
Et se réinventer.
Manon, avant de connaître ton parcours d'études et professionnel, ouais, et avant d'arriver à ce métier hein, que tu fais aujourd'hui et donc à la création de ton agence, nous allons faire une première petite pause musicale. Et comme à chaque fois dans l'émission, j'aime écouter et proposer les musiques qui rythment et accompagnent nos invités dans leur quotidien. Alors toi, dis-moi, quelle musique aimes-tu écouter par exemple le matin pour te booster et te donner de l'énergie?
Ok, alors je pense que tu vas rire, je ne sais pas si tu as la référence. En fait, j'adore Naruto.
D'accord.
Et du coup, j'écoute tous les matins, dès que je peux, Flow Go, qui est en fait du coup une musique que je trouve exceptionnelle. Et en fait, elle me donne la patate tous les matins.
Eh ben, mettons-nous la patate avec toi en écoutant Flow Go. Like a jungle rider, right here, right now. Vous écoutez l'émission des métiers de l'ombre sur Radio G101.5 FM et aujourd'hui je suis avec Manon Nicolas, designeuse graphique et directrice artistique. Alors Manon, quel parcours d'études choisis-tu avant d'arriver au métier que tu fais aujourd'hui?
Alors, c'est très simple. Donc, effectivement, comme je t'ai dit, ma maman avait trouvé en fait une école d'art. Donc, effectivement, elle s'était renseignée. Il y en a quand même pas mal. Ça, c'est cool. Maintenant, je voulais, moi, pouvoir un petit peu tester à tout pour savoir ce qui allait me plaire, en fait. Donc, je suis rentrée à l'école Brassard sous un concours. Donc, en fait, on devait faire des dessins, donc des natures mortes et puis aussi un dessin personnel, en fait. Et donc, j'ai été acceptée. Alléluia.
Félicitations.
Merci. Et puis, je suis rentrée dans cette école. Donc, en fait, c'est un cursus qui commence par une prépa.
Donc, une mise à niveau en art appliqué.
Exactement. C'est ça. Ouais. C'est une mise à niveau en art appliqué. Et donc, en fait, c'est une prépa qui va finalement sélectionner ceux qui vont rester pour les années d'après et ceux qui, malheureusement, ne vont pas avoir assez le courage de continuer et qui vont devoir partir. Donc, j'ai fait cette première année de prépa où j'ai beaucoup pleuré parce que c'était très, très dur.
Très intense.
Ouais, ouais. Puis, tout est nouveau, en fait. Tout est nouveau. Tu arrives dans ta vie d'étudiante. Déjà, tu as aussi ton appart. Et puis, en même temps, tu as une quantité de travail immense. Tu dois apprendre à t'organiser, à te faire à manger, à travailler jusqu'à des 2-3 heures parce qu'on avait à peu près 7 projets par semaine. Vraiment, c'était énorme. Mais c'était hyper intéressant, donc il y avait toujours la motivation, mais il y avait la fatigue aussi qui pouvait beaucoup se lier. Donc en fait, cette prépa-là, je ne l'ai pas réussi. Et donc, j'ai eu la chance de faire partie des 5 personnes qui étaient acceptées pour le redoublement. Ah. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un classement, donc on était sur 80. Et en fait, sur le classement, moi, je suis arrivée 67e. Donc, j'ai eu de la chance de ouf, oui. Vraiment. Et donc, j'ai refait une autre prépa. Et effectivement, il m'a fallu 2 ans pour bien tout assimiler, puisque la deuxième année, je suis arrivée 13e sur 80.
Ah oui,
ouais.
Rien à voir.
Rien à voir. Mais comme quoi, des fois, oui. Il faut juste un peu plus de temps pour certaines personnes.
C'est vrai.
C'est pour ça que je dis toujours à tout le monde, en fait, mais c'est pas grave si t'as pas réussi en un an. Peut-être qu'il te faut 2, peut-être qu'il te faut 3. Mais il faut tester, en fait.
Et donc, suite à ces années d'études,
ouais.
Tu as dû quand même commencer à mettre ton pied à l'étrier, et donc à travailler et avoir de l'expérience professionnelle.
Tout à fait.
Peux-tu nous raconter ces moments de ta vie?
Ok. En fait, si tu veux, quand je suis sortie de mes études, j'étais pleine d'idéaux merveilleux. Et j'avais fait donc 6 ans d'études. Donc, en fait, je me suis dit, c'est très simple. Moi, j'ai quand même un salaire auquel je veux prétendre. Et en fait, quand j'ai regardé les annonces, je t'avoue que j'ai un peu déchanté parce que je me suis dit, punaise, c'est quand même dingue qu'après 6 ans d'études, on me propose des salaires comme ça, quoi. Donc, j'ai pas voulu participer à ça.
D'accord.
Je me suis dit, j'ai l'impression de connaître un peu ma valeur. Je sais de quoi je suis capable. Et pour tout le travail que je vais fournir, ça m'embête un peu d'être payée si peu. Voilà.
Ah oui, c'est audacieux.
Ouais, c'est ça. Alors, ça peut être un peu vu comme de la prétention, mais moi, je trouve que c'est du respect de soi-même. Et donc, en fait, je me suis dit, OK, écoute, on va tenter. On va tenter le freelance. Donc, je me suis mis à mon propre compte. Je me suis dit, vas-y, tu connais un petit peu des gens autour de toi. Tu as fait des stages aussi dans des agences qui t'ont fait confiance. Donc, effectivement, tu as un petit réseau. Donc, vas-y, fais le marché, en fait.
D'accord.
Voilà, donc je me suis mis en freelance.
Et c'est pas trop compliqué à mettre en place quand on sort des études, justement, on est encore tout jeune, tout frais, de se mettre direct dans l'entrepreneuriat?
Alors, moi, j'ai pas trouvé ça dur, j'ai trouvé ça moins dur que l'école, en fait.
Ah.
En fait, si tu veux, l'école dans laquelle j'étais aussi, et c'est là l'importance de choisir une très bonne école, c'est qu'ils te forment pour le milieu professionnel, mais encore pire que le milieu professionnel, en fait. C'est-à-dire que quand tu arrives dans le milieu professionnel, tu es déjà armé, en fait. Mmh. Tu sais déjà comment faire.
C'est le potentiel de ces écoles, en soi.
Ouais, exactement. Et du coup, j'étais beaucoup plus détendue, en fait, dans le monde professionnel parce que les gens étaient beaucoup plus light, beaucoup plus légers, beaucoup plus doux. Il n'y avait pas marqué médiocre sur ton rendu, tu vois.
Ouais.
Alors que, effectivement, tu vois, à l'école, c'est tout de suite des choses qui étaient un peu plus tranchées, en fait. Et puis les deadlines était hyper serré, tu vois, alors que dans le monde professionnel, les deadlines, tu les vois avec le client, t'en discutes, etc. Il y a toujours moyen, tu vois, de pouvoir s'organiser. Donc, effectivement, j'ai eu cette facilité-là de pouvoir rentrer dans le monde professionnel sereinement, en me faisant confiance. Et puis, effectivement, en ayant aussi ce côté-là où j'avais des personnes autour de moi qui, du coup, pouvaient me faire confiance. Donc, en fait, je me suis dit, OK, on va se renseigner, comment avoir ses premiers clients, comment chercher tout ça, etc. Et donc, j'ai trouvé mon premier client grâce à LinkedIn.
Et comment ça s'est passé? Alors, du coup, comment l'as-tu trouvé sur LinkedIn et comment t'as fait pour décrocher le contrat, on va dire?
En fait, mon premier client, j'avais tapé dans la barre de recherche « recherche graphiste logo ». Voilà, je t'ai dit « vas-y, je tente ». Et il y avait une dame qui avait du coup une boutique de maroquinerie qui recherchait quelqu'un pour refaire son logo. Et donc, bah, j'avais répondu, en fait, je lui avais envoyé un mail. Et elle m'avait répondu, elle m'avait dit « ok, super Manon, est-ce qu'on peut savoir au téléphone ?» Donc, je l'avais eu au téléphone, on avait discuté, etc. Et puis bon, j'avais tout de suite la vision de ce qu'elle voulait parce que c'était vraiment quelque chose d'un petit peu d'épuré, de simple, un logo avec un animal. Enfin, voilà, très, très basique, mais très facile, quoi. Et donc, du coup, on s'est lancé ensemble, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que pour mon premier client... J'avais fait au moins 27 versions du logo.
Ah ouais.
Oui, tellement je voulais bien faire pour te dire. Non mais c'est dingue quand tu y penses aujourd'hui parce que j'aurais jamais le temps de faire 27 versions. Mais...
Ben oui, et puis surtout que c'est pas évident de choisir à la fin parmi les 27 lequel est le mieux au final.
Je l'ai noyé, la pauvre.
Ah oui, je comprends. Et donc là, si du coup une marque te demande de refaire son identité visuelle, ou même refaire un logo ou un événement, etc. Comment ça se déroule? Quel est le processus qui est mis en marche et qui est suivi par toi jusqu'à l'utilisation de ce que tu as créé par le client?
Alors, en fait, le processus, c'est que déjà, dans un premier temps, moi, j'ai toujours la personne au téléphone. Ça, c'est un truc qui est primordial. Ou alors un rendez-vous en physique, tu vois, si la personne, elle est pas loin d'Angers, là-dessus, c'est super cool aussi. Donc, effectivement, déjà, il y a ce premier rendez-vous pour que je cerne aussi si moi, je suis capable de pouvoir leur apporter quelque chose. OK? Donc, on discute, on parle du projet, je pose plein de questions. Et en fait, par exemple, si ça va être un logo, moi, je vais leur envoyer après un questionnaire. Donc, j'ai établi ça depuis quelques années parce que ça me fait gagner un temps fou.
C'est ta méthode.
Voilà, tout à fait. Et en fait, ce questionnaire-là, il y a 11 questions dedans qui vont leur permettre de se positionner parce que les clients, ils arrivent avec plein d'idées. Ils te donnent tout ça à la figure. Et puis, effectivement, toi, tu te débrouilles. Sauf qu'en fait, ils ne se sont jamais positionnés eux-mêmes.
Ils n'ont pas brainstormé entre eux.
Exactement. Donc, en fait, moi, je les force avec ce questionnaire à se positionner eux-mêmes avec les bonnes questions. Ce qui fait qu'en fait, quand ils vont répondre à ce questionnaire-là, ils vont pouvoir vraiment réfléchir à ce qu'ils veulent vraiment. Et donc, ils vont me le renvoyer. Moi, du coup, je vais pouvoir leur envoyer un devis par rapport à ça. Dès que le devis il est signé, je demande toujours un acompte. Donc, l'acompte, en fait, il est traité. Moi, je peux me lancer sur la création. Et en fait, je fais ce qu'on appelle le principe de l'entonnoir. Et le principe de l'entonnoir, c'est que moi, je vais leur faire 3 versions, par exemple, du logo ou du flyer ou de l'affiche. Ils vont en choisir, du coup, 2. Donc, on en laisse une sur le côté. Et en fait, sur les 2, je vais faire des modifications. Idem, je retravaille dessus, je leur renvoie. Et parmi les 2, ils vont en choisir une, je refais les modifications. Et après, on a la version finale, en fait.
C'est chouette.
C'est le principe de l'entonnoir. Jusqu'à maintenant, ça marche tout le temps parce que c'est un travail d'équipe, en fait.
Oui. Eh bien, Manon, avant de découvrir pour la suite quelques petites anecdotes que tu as pu rencontrer dans ton quotidien avec certains clients éventuellement, je te propose une seconde petite pause musicale avec un morceau que tu affectionnes tout particulièrement. Alors, lequel est-ce ?
Sala perché ti amo.
Ah, le petit côté italien. Eh bien, écoutons tout de suite Sala perché ti amo de Ricci e Poveri.
Sempre più in alto si va e vola, vola, vola.
retour dans les métiers de l'ombre avec notre invité Manon Nicolas. Vous nous écoutez en direct sur Radio G 101.5 FM. Manon, ça va toujours ?
Ça va toujours merveilleusement bien.
C'est parfait. Alors, tu travailles avec divers clients, que ce soit des marques connues, des établissements ou autres organismes. Pourrais-tu nous citer quelques anecdotes rencontrées sur des projets comme une demande particulière, un client un peu difficile ou même un projet complètement fou ? Dis-nous.
Ok. Alors, effectivement, j'ai pu travailler pour autant des particuliers que pour des grandes marques. Voilà, donc ça c'est super parce qu'on peut voir vraiment les univers différents. Et effectivement, la petite anecdote, c'est que quand j'ai pu travailler pour Marvel, moi je pensais pouvoir vraiment être hyper libre, mais quand on t'envoie un mail avec un cahier des charges de 70 pages, voire même 100 pages, hein, tout de suite on se sent beaucoup plus limité en fait. Hein, voilà. Donc c'est un petit peu le côté où j'ai déchanté. Parce qu'en fait, par exemple, tu vois, je ne pouvais pas vraiment retoucher les personnages, je ne pouvais pas couper les personnages, c'est-à-dire que les personnages devaient se mettre en entier sur l'affiche, je ne pouvais pas placer tel personnage à droite, mais il devait être à tout près à gauche. Vraiment, mais des trucs un petit peu où tu te dis, mais pourquoi ? Oui. Juste pourquoi, en fait, c'est hyper limitant dans ta création. Mais malheureusement, c'est des, comment dire, un petit peu des consignes.
Oui.
Il y a tellement de choses, tu vois. Par exemple, j'ai travaillé aussi sur les Schtroumpfs. Et sur les Schtroumpfs, c'était pareil, en fait. C'était le grand Schtroumpf. Il doit être en premier plan. Tous les autres, ils doivent être en second plan. Donc, il n'a pas le droit d'être en dernier plan. Il n'a pas le droit d'être caché. Chaque Schtroumpf ne doit pas aussi être caché au niveau des pieds. On doit voir tous les pieds de tous les Schtroumpfs. Alors, je te laisse imaginer le temps passé juste sur ça. C'est terrible. Et si tu veux d'ailleurs une anecdote un petit peu cinglante,
allez, je
t'écoute. J'en ai une pour toi. J'avais été contactée par Louis Vuitton. Donc, j'étais super contente. Je me suis dit, ok, génial. Pourquoi ils ont besoin de moi, etc. Machin. Et donc, en fait, la nana, elle m'appelle. Donc, je suis au téléphone avec elle et elle m'explique qu'en fait, du coup, voilà, ils aiment beaucoup mon univers. Ils ont vu que j'ai travaillé sur des beaux projets, etc. Et donc, en fait, elle me dit, voilà, donc... Et là, elle change un peu de ton. Elle me dit, voilà, donc, faudrait pouvoir venir sur Paris à peu près 2 à 3 jours par semaine. Donc, j'espère que vous avez quelqu'un pour vous héberger parce que c'est pas pris en charge. Et ensuite, du coup, moi, je lui parle du tarif journalier. Donc, moi, par exemple, au tarif journalier, je suis à 500 € la journée. De par mon expérience, mon expertise et tout ce que j'ai appris, en fait. Et elle me dit, ah non, mais ça va pas du tout le faire. Nous, ici, c'est 100-150 € la journée.
Ah oui.
En fait, là, je ne gagne rien dans ce que vous me dites.
Non, non, oui.
Et donc là, elle s'est un peu énervée. Elle m'a dit, mais vous ne vous rendez pas compte de la chance que c'est. Il y en a beaucoup qui le feraient bénévolement. J'ai fait, bah, allez-y, trouvez les bénévoles. Mais ce ne sera pas moi.
Oui, c'est ce jeu de se dire que la marque est connue. Donc, travailler pour cette marque, là aussi, ça... cette plus-value, alors qu'en fait, pas forcément.
Ouais, c'est ça, c'est on te paye en visibilité, quoi.
Mmh, oui,
bah,
c'est ça.
D'accord.
Il y a une question qui me taraude quand même, justement, sur, on va dire, le plus basique des choses qu'on doit te demander, c'est, par exemple, oui, voilà, je crée une entreprise et je souhaiterais un logo.
Ouais.
Voilà. Si quelqu'un, admettons, nous écoute et dit, oui, ça peut être intéressant, j'aimerais refaire mon logo. Est-ce que tu peux nous donner une idée de déjà combien de temps ça peut te prendre pour faire un logo et une fourchette de prix de combien ça peut coûter.
Ok, alors moi je vais un petit peu casser les tabous là-dessus, c'est-à-dire que j'ai pas une fourchette de prix spécifique pour les logos. Moi ce que j'aime bien dans mon agence, et c'est pour ça que j'ai appelé ça 432 Hz, parce que c'est la vibration du bonheur, c'est la vibration de l'humain, de la nature, et c'est pour ça que j'ai appelé ça une agence consciente. Une agence consciente, c'est-à-dire qu'en fait je laisse personne sur le bord de la route. C'est-à-dire que la personne va me dire « Ok Manon, moi j'ai besoin d'un logo, effectivement, voilà, j'ai pas beaucoup de budget. » Ok, t'as pas beaucoup de budget, mais voyons voir ce que moi je peux te proposer par rapport à ton budget. Donc en fait, il y a tous les prix pour un logo. Il y a des logos qui peuvent démarrer à 300 €, autant qu'il y a des logos qui vont partir à 1000, 1500, voire même 10 000 €. Vraiment, ça ne s'arrête pas en fait. C'est-à-dire que moi, je vais faire un travail et il y aura un rendu de logo pour 300 € si c'est 300 €. Donc effectivement, la personne qui paye un logo à 1000 €, là-dessus, elle va avoir des déclinaisons complètes, elle va avoir une charte graphique avec, elle va avoir tout un branding, alors que la personne avec un logo à 300 €, elle va avoir le logo, effectivement, elle va avoir 2-3 déclinaisons, mais elle n'aura pas la charte graphique, elle n'aura pas tout le reste. Mais au moins, elle pourra démarrer quelque chose
avec
exactement.
Ça.
Exactement. Donc en fait, quand j'ai des personnes au téléphone qui vraiment viennent de milieux sociaux un petit peu différents, j'aime bien pouvoir leur proposer quand même une solution, parce que c'est mon métier de trouver une solution pour eux. Mmh. Et de pas leur dire, bah non, écoutez, vous avez pas les sous, au revoir. Je ne peux pas tolérer ça, en fait. Mmh. Je leur proposerai toujours une solution. Donc les prix, oui, mais en fait non, parce que tu peux t'adapter en fait avec ton temps de travail. Donc tu vois, un logo à 300 €, je vais peut-être y passer 3-4 heures, tu vois. Un logo à 1000-1500, je vais peut-être y passer plus 3 jours, 4 jours, tu vois.
Oui, je comprends. Bon, en tout cas, ça fait un beau panel, un beau parcours, Manon. On peut dire que c'est un métier passion ?
Oui, je pense. Sinon, j'aurais peut-être pas construit tout ça, ça c'est clair.
C'est pas faux. Eh bien Manon, on te souhaite plein de belles choses pour la suite. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. C'était très chouette de t'avoir avec nous aujourd'hui. Et j'espère que nos auditeurs auront un regard différent sur ce métier de l'ombre, qu'est designeuse graphique ou voire directrice artistique. Bonne continuation à toi et à très bientôt.
Merci encore, merci beaucoup.
Avec plaisir. En attendant, nous on se retrouve dans 2 semaines pour découvrir un tout autre métier de l'ombre. Très belle journée à tous et n'oubliez pas, chaque voix mérite d'être entendue. À dans 2 semaines, bye.